Ça va? La dernière fois que j'ai touché quelque chose comme ça, je vous laisse imaginer. Mais je ne toucherai pas. Peu importe, je te suivrai. Peu importe,
je te suivrai.
Ok. Quand nous étions il y a quelques mois en arrière avec Raymond et Stéphanie, ambitieuse, le cœur plein en se disant « Seigneur, on continue, gap 2012 », on était sur le choix de ce « Peu importe, je te suivrai ». Quelques semaines plus tard, j'ai appelé Raymond et j'ai dit « Raymond, servir le Seigneur, le suivre, c'est fabuleux, mais il y a tellement de résistance, il y a tellement de choses qui pourraient nous accaparer. Et puis, oui, ça se passe là, mais il y a des choses qui se passent là-haut. » Et dans ce domaine des pensées, c'est un véritable champ de bataille. Et tu me permets, mais moi je vais parler de ça parce que le champ de bataille de nos pensées, c'est quand même ça qui va décider qui c'est qu'on écoute, qui c'est qu'on va suivre et comment on va le faire. Donc j'ai travaillé fort, j'ai beaucoup lu, je me suis enthousiasmée pour le sujet. J'y étais. Et puis il y a trois petites semaines, alors que je regardais à nouveau et je repensais à ce moment sur Toulouse où on était là en train de dire « Bon Seigneur, on veut te suivre. Allez, gap 2012, peu importe, je te suivrai. Peu importe. Peu importe, je te suivrai. » Et je me suis dit « Peu importe. Peu importe. » Et là, je me suis dit « Non. Seigneur, qu'est-ce que tu fais là ? Non, non. » Et le Seigneur était en train de me dire, « C'est bien, tu as travaillé là sur le champ de bataille, c'est bon, c'est pour toi, mais moi je t'amène ailleurs, sur un autre terrain. Tu me suis ? Je te suivrai. Hein. » Donc j'ai laissé le Saint-Esprit me parler et je suis assez troublée parce qu'il y a beaucoup de choses. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai eu Stéphanie au téléphone, mais avant, j'ai envoyé un mail à mes deux. On est trois, hein, ça fait presque des mousquetaires au féminin, ça. Et je leur ai dit, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé. Et je lui raconte ma petite histoire. Je leur dis tout. Peu importe, je te suivrai. Champ de bataille dans mes pensées. Seigneur, non, autre chose. Donc je dis, voilà, je vais parler de ça. Et Stéphanie me dit, non, tu ne vas pas parler de ça. Moi, j'ai tout préparé. Donc les filles, ce soir, on fait des révisions parce qu'on va parler de ce qu'on a parlé ce matin. Voilà, peut-être autrement parce que moi, je ne m'appelle pas Stéphanie. Mais je voudrais vous parler justement de peu importe. J'ai rencontré une femme dans la Bible qui, elle aussi, a osé dire un jour quelque chose. En fait, vous allez comprendre. Nous, on dit « je te suivrai au Seigneur », mais cette femme s'appelle Ruth. Et elle a compris toutes les résonances de ce « peu importe ». À un moment de sa vie, cette femme est face à un choix. Elle aussi va dire « peu importe, je te suivrai ». Elle va le dire à Naomi, bien sûr, pas à Dieu. Mais moi, ce qui m'importe là, c'est que vous compreniez sa détermination. Vous connaissez cette femme, Ruth. C'est pas elle en réalité. Hein. Moi, je prie mon champ de lavande là. Et puis, j'ai quand même vu une sorte de parapluie sur cette femme parce que dans le peu importe, on va le voir tout à l'heure. Dans ce peu importe, Ruth a d'abord vécu un mariage mixte. Qui sait que déjà, le mariage, 1 plus 1, qui fait combien, mesdames ? Ah, moi, je ne sais pas. Moi, quand j'ai fait mes maths à l'école, on m'a dit que 1 plus 1, ça fait 2, parce qu'on reste toujours l'épouse. L'aide semblable à côté d'eux. Je vous en prie, arrêtez, révisez vos mathématiques. Ne dites plus qu'un plus un, ça fait un. Oui, une seule chair, d'accord, je suis d'accord. Mais un plus un, ça fait deux. Vous avez votre réalité. Pas derrière, caché, devant, mais à côté. Un plus un, ça fait deux. Et qui sait que quand un plus un s'unissent et marchent ensemble, c'est pas toujours facile. Même quand on vient de la même contrée, qu'on se connaît, qu'on est ensemble, peut-être même éducation. Mais là, elle va rencontrer, elle va vivre un mariage mixte. des cultures, des habitudes différentes. Elle est l'épouse de Malon, un Israélite, alors qu'elle est Moabite. Choc des cultures, ça commence déjà. Et puis, au bout de 10 ans, un veuvage, un exil, c'est pas fini. Un exil dans un pays inconnu, Ruth va partir dans le pays des origines de son mari. Puis elle est face à autre chose, Ruth. Au bout d'un moment, vous connaissez l'histoire, on lui propose de la renvoyer dans son pays. Retourne. Naomi avait de très bons sentiments. Je plaide pour les belles-mères. Naomi avait de très bons sentiments. Mais elle lui a quand même dit, retourne, va-t'en presque, hein. Retourne. Elle a refusé. Elle a dit non. Et si vous lisez le livre de Ruth, chose que je vous invite à faire, chapitre 1 au verset 9, il est dit qu'elle a versé d'abondantes larmes. Moi, je vois cette femme remplie d'indignation à cause de tout ce qu'elle a vécu. Et elle va pourtant exprimer un choix, une détermination. Peu importe, avait toute une signification, une résonance de douleur, de souffrance et d'abnégation. Pourtant, face aux épreuves de sa vie, voilà une femme qui se relève de ses cendres, de son deuil, de sa souffrance. Car dans son cœur est née une détermination, je te suivrai. Une vie trimballée, une vie malmenée, déracinée, des larmes, du chagrin. Et cependant, ce tout dans sa vie, dans ce tout de sa vie, elle fait un choix. Elle se positionne et je répète, elle va dire, elle va le vivre, je te suivrai. Alors, peu importe. Vraiment, peu importe, quoi qu'il vous en coûte, c'est un très joli titre, hein. Peu importe, je te suivrai. Un joli titre, des mots faciles à dire, faciles à écrire. Je voudrais vous amener à réfléchir sur des mots M-A-U-X, beaucoup plus difficiles à traverser et à supporter. En fait, que représente ce « peu » ? Ce n'est pas si peu en définitive, et c'est même beaucoup. Et j'oserais dire carrément que c'est même trop, trop. Et là, on va laisser Ruth un peu de côté. Je vous invite à penser à vos vies. Dans ce peu importe de votre vie, rappelez-vous tout ce qu'il a fallu traverser, endurer. Et donc, c'est là que je fais la révision avec Stéphanie. Et ce peu importe, devenez et glissez vers un malgré tout. Malgré tout. Pour une meilleure compréhension, je vais vous demander un petit exercice là. Peu importe, malgré tout, allez, tournez-vous vers quelqu'un et dites un synonyme. Dites-lui un autre mot. Qu'est-ce que ça veut dire peu importe ? Entre vous. Quoi qu'il arrive, je l'entends. Ouais. Ben, y en a des synonymes, hein. Y en a un paquet. Ok. Il y a plein de synonymes. Quoi qu'il arrive, advienne que pourra, qu'à cela ne tienne, ça ne fait rien. Mais remarquez que quand même, on ne peut pas dire quoi qu'il arrive, point. Ah, quoi qu'il arrive, il faut dire autre chose. Et ce petit mot, peu importe, malgré tout, ça nous amène sur autre chose. Il va y avoir une déclaration, il va y avoir quelque chose. J'ai trouvé deux petits exemples, je vais vous donner. Par exemple, le réveil sonne. La météo n'est pas favorable. En plus, je suis très fatiguée. Je n'ai pas envie. Mais peu importe, malgré tout, il faut bien que j'y aille. Hein. Je vais aller travailler. C'est une affirmation. On ne pose pas le malgré tout, on ne pose pas le peu importe sans une détermination à côté. Je vous donne un autre exemple. Je rentre de... Non, vous rentrez de course. D'accord ? Le coffre est plein, la malle est pleine. Et puis là, parce qu'on est des mamans modernes, on prend son... Hein, on envoie un texto à son ado favori et puis on lui dit « Descends, viens, j'ai besoin de toi, ok ?» Et puis là, vous êtes face à « J'ai pas envie, je veux pas, je suis fatiguée, j'ai autre chose à faire, d'accord ?» Ok, vous montez votre sac à main et vous dites « C'est pas grave, hein, peu importe, je fais pas manger. » Il y a tout dans... Ben là, je vous mets au défi, mesdames, il y a un ado qui va descendre très vite, hein. Si vous avez des ados, vous savez ce que je veux dire. En fait, dans ce peu importe, dans ce malgré tout, il s'impose tout de suite après une réaction. Une réaction. C'est à ça que je veux vous amener. Mais dites-moi quand même, que représente ce peu importe pour que nous en imposions une affirmation à suivre le Seigneur? Peu importe ou malgré tout, et je vais oser dire que c'est une différence qui amène quand même une très forte ressemblance. Si ce peu importe devenait et prenait l'allure d'un malgré tout, en dépit de tout, quoi qu'il arrive, cependant, néanmoins, tout de même, absolument, résolument, je te suivrai. La vie, vous le savez, hein, c'est un très long fleuve tranquille. Je croyais. Je voudrais vous demander là, qui était présente l'année dernière en octobre à Gap? Ok, laissez la main. Maintenant, soyez honnêtes les filles, hein, on est entre nous, hein, vous êtes bien honnêtes. Hein. Qui se rappelle de mon introduction sur la prédication de Méphibosheth? Bon, on va faire quelque chose. Hein. Ok, et sincèrement, moi-même, il a fallu que je retrouve mes notes. Mais je savais qu'il y avait quelque chose d'important. Je vous lis ce que je vous ai dit. On ne réalise pas assez tout le processus qui se met en place dès lors que nous nous levons, quand nous acceptons d'obéir à ce que Dieu nous demande. J'affirme. Et je suis au milieu de vous pour dire que Dieu, au creux de vos vies, est celui qui saura toujours vous conduire, vous garder, vous protéger. Ce genre d'explication du processus, on aime. Dieu qui me protège, Dieu qui me garde, ok, on aime. Par contre, osez penser que l'ennemi, lui aussi, va enclencher un processus, une manœuvre, ça j'aime beaucoup moins. Et je vous en parle. L'année dernière, nous étions ensemble et nous avons vécu un week-end formidable. Okay, c'était bon. Je suis rentrée avec des amis qui étaient avec moi dans la voiture dans la nuit de dimanche à lundi. Et dans la nuit de lundi à mardi, il s'est passé ce que beaucoup d'entre vous savent. Et je voudrais juste là faire une petite pause et vous dire que la famille de Dieu, les amis que Dieu vous accorde, avec qui vous pouvez avoir cette unité dans l'esprit, c'est pas un rêve, c'est pas une histoire, c'est une réalité. Je l'ai vécu. Dans la nuit de lundi à mardi, mon mari faisait un AVC. On n'a rien vu sur le champ. Et je voudrais, vous êtes nombreux, c'est très impressionnant de vous avoir tous en face là. Je ne vois pas, mais quelqu'un est venu me dire aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Je prie pour vous, je priais, j'ai prié depuis. Vous savez pourquoi? Parce que là, dans les urgences, ce jour-là, quand il a fait son AVC, c'était dans la nuit de lundi à mardi, on ne s'est pas rendu compte. Mardi matin, je me lève très tôt pour partir travailler. Et là, j'ai vu que dans la cuisine, en buvant le café, il avait un œil bizarre. Il m'a dit, c'est rien, j'ai mal dormi. Ils sont forts, les hommes, hein, franchement. Et il avait mal dormi, il s'était levé pour prendre quelque chose parce qu'il avait mal à la tête. Et j'ai vu cet œil bizarre et je suis partie au travail. Il a fait sa journée. Et le mardi, je sors à 18h, j'arrive 19h10. J'ai le temps de monter ma Bible, mon cartable et prendre ma Bible pour descendre en bas à l'église. Et là, je suis assise au fond et je l'entends prêcher. Et je me dis, c'est bizarre. Il ne prêche pas comme d'habitude. On a l'habitude hein, de nos maris, leur manière de l'addiction. C'était lent, il cherchait ses mots. Et à la fin de la journée, il me dit, j'ai encore très mal à la tête. Ça a duré mardi. Mercredi, consultation sur rien, c'est une migraine, dit le médecin. Okay. Jeudi, scanner. Et les résultats du scanner ne voyaient rien. Jeudi après-midi, je rentre du travail. Parlait mal avec une allocution très particulière. Et là, il téléphone au médecin qui lui dit, qu'est-ce que c'est? partez aux urgences. Et là, mon patron, je vous dis, les hommes sont toujours très forts. Mon Patrick, là, tout fort, il prend les clés et je lui dis, où tu vas? Il me dit, aux urgences. Ben voyons. Donc j'ai dit, donne-moi les clés, on va aux urgences. Et là, aux urgences, l'interne a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose de grave. Depuis quand? Depuis quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne toutes ces explications parce que vous êtes mes témoins. Vous étiez là avec moi l'année dernière. Je veux que vous compreniez le miracle de Dieu. J'étais aux urgences et là, on dit à Patrick, il faut passer un IRM, c'est assez grave. Il était 10h30 du soir, je suis sortie, il était en boxe, je ne pouvais pas aller de l'autre côté. Et là, je me sentis complètement démunie. Je sais ce que c'est qu'un AVC. En 2003, j'en avais fait un et là aussi, le Seigneur est intervenu d'une manière miraculeuse. Et là, dans le hall, je me suis rappelée ce trouble, l'amnésie qui a suivi, que j'ai eue. Quand on ne reconnaît pas ses amis qui viennent prier, ça fait vraiment bizarre, vous savez. Et en 2003, je me suis rappelée très bien de tous ces symptômes qui se sont... Et là, j'ai eu peur. Mes amis, toute femme de pasteur que je suis, je ne mesure qu'1m55. Et à ce moment-là, aux urgences de Bordeaux, je ne devais même pas faire 1m20. Je me suis sentie tellement démunie, je n'ai fait qu'une chose, c'est d'attraper mon téléphone et d'envoyer un texto et d'avoir une partenaire de prière. La famille de Dieu, c'est une réalité, mes amis. Ce n'est pas du bluff. Et je vous encourage, vous les filles, à trouver, à prier que Dieu vous mette à côté une, deux, des amis qui, dans les cas durs, vont être à vos côtés, mais auprès de qui vous allez être. Raymond m'a dit, Patricia, on prie. Elle était en tournée avec Christian Robichaud. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a dû avoir un sacré téléphone à rat parce que vous avez été mis au courant et vous avez prié. Si je suis là aujourd'hui pour témoigner dans la paix et dans la joie, c'est parce que Dieu a entendu chacune de vos prières, mes sœurs. L'amitié des femmes chrétiennes contemporaines, c'est toute une réalité. Ça existe vraiment. Patrick va bien et je vous remercie beaucoup d'avoir prié. Je vous donne quelques brèves nouvelles. Il va bien. Des récupérations de fatigue un petit peu lentes, mais il va bien. Tout est reparti, tout a redémarré. Ce que vous avez déjà vu sur la route, ces petits panneaux qui disent un train. Moi, j'ai mon autre définition. Pour mon année 2011-2012, d'octobre à octobre, je vais vous dire qu'une tempête peut en cacher une autre. L'ennemi essaiera par tous les moyens de vous déstabiliser à cause de « peu importe, je te suivrai, malgré tout, je te suivrai ». Il essaiera toujours de vous déstabiliser, de vous impressionner, de vous déranger parce que vous le dérangez. Que dire de tout ce que vous rencontrez? Stéphanie a fait la grande liste ce matin. Et dans cette liste, je voudrais relever quelques mots. Rupture. Deuil. J'ai écrit une phrase qui m'a rappelé un livre. Il était là et je ne le savais pas. Ce livre, c'est mon ami Philippe Barbuy qui l'a écrit suite à son deuil. Je sais que Nadine en a quelques-uns. Prenez ce livre. Si vous passez par le deuil, si vous passez par des ruptures, il faut lire ce que cet homme a écrit, ce que cet homme, pasteur, un homme, a vécu. Au travers de tout ça, Philippe a pu dire, certainement, en refermant son livre, « Peu importe, je te suivrai ». Une drôle de soirée, hein, là, je vous donne une drôle de nouvelle. Hein, ce soir, on est très très loin de l'évangile de prospérité, là où tout va bien, tapis rouge, on avance, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire là, que c'est pas si facile que ça? Et quand je vous ai parlé du fleuve tranquille, qu'est-ce que vous m'avez dit? Mais malgré tout, vous savez, ces épreuves qui se succèdent, ces nuages qui s'accumulent, ces brèves accalmies, pour retomber très vite dans la même, voire une autre zone de turbulence. Devant l'évidence de nos douleurs, la vie, non, c'est pas un grand fleuve tranquille. C'est vrai, du reste, je vais vous dire, mesdames, on était très prévenus. Parce que quand on a choisi de servir Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, vous l'avez dit. » L'apôtre Paul va aller un peu plus loin. Il rajoute une petite couche, il s'adresse à Timothée. Vous connaissez Timothée ? C'est un petit jeune homme que Paul va prendre sous sa protection, qu'il va former et qu'il va envoyer dans le ministère. Et il dira en 2 Timothée 3,12, « Du reste, tous ceux, toutes celles, qui veulent vivre en piété avec Jésus-Christ seront... » Moi, j'ai du mal encore des fois à le prononcer, mais oui, c'est pas drôle du tout, ces perspectives. Mais, c'est dit. Et en même temps, quand je lis ma Bible, je lis aussi qu'on est appelé à nous élever. Élever, déjà, ça fait du bien. On va mesurer un peu plus que ce que je mesure et on s'élève comme l'aigle. Vous connaissez ce passage, mais ceux, celles qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles et ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se... Permettez-moi de vous présenter l'aigle royal. C'est un texte pour celles qui étaient à Toulouse. Je sais que je l'ai lu, mais je veux vous le donner ce soir. L'aigle royal passe le cap des 40 ans. Une fois qu'il a passé ce cap, il est confronté à une crise existentielle, sans équivalent dans la nature. La corne de son bec est devenue si épaisse et tellement recourbée qu'il ne peut plus se nourrir. Ses serres sont tellement dures qu'il est incapable d'attraper sa proie. Ses ailes magnifiques pèsent si lourd qu'il ne peut plus voler. Alors un choix s'impose à lui. Soit il meurt de faim très rapidement, soit il s'isole très haut, là-haut sur la montagne. Bienvenue à Gap. Dans ce second cas, isolé, il va disparaître pendant 3 longs mois. Écoutez, il frappera d'abord la corne de son bec contre la paroi rocheuse, jusqu'au moment où son bec cassera, afin qu'un autre puisse pousser. Puis, de son bec neuf, il arrachera ses griffes l'une après l'autre, et d'autres en pousseront. Dans ce processus naturel, dès que ce processus naturel aura eu lieu, il arrachera son plumage avec ses serres. Vous imaginez un peu la souffrance, l'endurance ? Et alors, une huile coulera sur ses blessures. À quoi ça vous fait penser, ça ? Et un plumage tout neuf pourra pousser. Rajeunir comme l'aigle prend donc tout son sens lorsqu'on en connaît l'explication. Que de problèmes, que de souffrances il aura dû endurer pour survivre. Il en est de même pour nous, que de combats, de tribulations, nous devons traverser pour arriver jusqu'au Père, mais pour cela, en comptant sur son secours et sur sa grâce. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se lasser. Il nous faut ouvrir notre Bible. Je voudrais qu'ensemble, nous lisions le psaume 103, s'il vous plaît. Le début du psaume nous dit « Béni l'Éternel, virgule ». Et qui sait que la ponctuation a toute son importance ? J'ai des profs de français ici avec moi ? Non, je vais baisser ma main. Les ponctuations ont toute leur importance. Bénis l'Éternel, virgule, mon âme, même s'il fallait me secouer, je bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe. Et moi, je dis alléluia, parce que je suis dans le miracle permanent. Je vois le miracle que Dieu a fait dans la vie de mon mari, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ça va faire du bien de vieillir, tu vas voir. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Je vous le confie, allez-y jusqu'au bout de ce psaume, vous verrez combien il est important de lire l'Éternel. Mais, quand ce malgré tout nous fait glisser peu à peu, vous savez, ces épreuves que nous traversons, elles ont des effets inévitables sur nos vies, dans nos existences. Nous rencontrons des échecs. Des fois, la maladie est engendrée par les épreuves que nous traversons. Et là, les déceptions peuvent nous assaillir, des traumatismes aussi. Je parlais des deuils, des ruptures. Ce tout nous pousse trop souvent à l'isolement, dans un désert de souffrance, un lieu inconfortable. Nous souffrons, nous avons mal, nous aurions besoin les uns des autres et pourtant nous nous cachons. Comme pour développer des autoprotections, on veut se protéger, on veut se blinder, on se carapace, on se tait. Oui, mais dans ce silence, ce tout, il crie toute sa douleur et il nous fait mal. Les mois, les années peuvent passer, nous risquons de prendre une certaine monotonie. Là, je ne parle pas de l'épreuve parce qu'on ne connaît pas le Seigneur. Hein. Je suis en train de dire qu'on est tout au Seigneur, mais qu'on peut traverser ces moments-là et qu'on risque très vite d'adopter cette position de repli sur soi, de recul. Je suis toujours chrétienne. Je vais toujours à l'église avec ma Bible. Et le dimanche matin, je loue le Seigneur, mais je suis dans un isolement total. Et là, je suis dans une lassitude parce que la traversée des épreuves, du désert aussi, et puis quand ces tempêtes sont là les unes derrière les autres, je voudrais ici parler de cette passivité néfaste qui nous entraîne à un train-train de la vie chrétienne, un subi de la vie chrétienne. Comprenez ce que je dis là? Vous entendez ce que je dis? Cette habitude d'être chrétienne, mais de plus avoir cette ferveur, de plus être capable de dire « je vais y aller quand même, j'y vais ». Mais c'est plus le « je vais y aller, je te suivrai ». C'est « je suis chrétienne, c'est dimanche matin, j'y vais ». Et on glisse peu à peu. Nos émotions malmenées risquent fort d'engendrer des maladies, des maux, je l'ai dit tout à l'heure, des malaises aussi, des mal-êtres. Cependant, nous croyons et nous savons que Dieu nous appelle à vivre autre chose. Alors que faire? Comment nous diriger dans ce subi de la vie, dans ce peu importe, malgré tout, comment me relever? Oui, mais peu importe, je te suivrai. Une virgule qui s'exprime, ou plutôt, laissez-moi vous dire, une virgule qui laisse Dieu s'exprimer. Encore une lecture dans sa parole qui va nous ramener à ce désert traversé, le désert de nos épreuves, de nos lassitudes. Que pourrions-nous trouver dans le désert? Qu'y a-t-il dans le désert? Ouais, du sable. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien dans le désert. Le désert, c'est... Il n'y a pas plus banal que ça. Le désert, c'est désertique, n'est-ce pas? C'est vraiment le désert. Il n'y a rien. Et je voudrais simplement vous parler de ce désert un petit moment. J'ai trouvé une phrase qui m'a beaucoup touchée. Dans la solitude, ce n'est pas dans la Bible. Hein. J'ai trouvé sur une carte, comme on des fois on voit dans les librairies, et j'ai acheté cette carte. Dans le désert et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel. L'essentiel. Qui est votre essentiel? Où se trouve votre essentiel? Dans le désert, il n'y a plus rien. Mais quand vous avez soif dans le désert, où est votre source? Dans le désert, on ne peut pas manger. Quand vous avez faim, que vous êtes affamé de vivre autre chose, où sont vos réserves? Où est votre énergie? Dieu nous parle dans Ésaïe 43 et nous dit, n'aie pas peur. Dans le désert, Dieu est bien capable de vous dire, n'aie pas peur. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Écoutez ça. Ne pensez plus aux premiers événements. Une autre version dira, ne pensez plus aux événements du passé. Et là, je me prêche là. Je me dis, Patricia, ne pense plus à ton année 2011-2012, parce que Dieu est en train de me dire, ne cherche plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe, sur le point d'arriver. Ne la remarquerez-vous pas? Mes amis, il faut ouvrir nos yeux, regardez. Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alors oui, peu importe, malgré tout, je te suivrai. Je l'ai mal dit. Peu importe, malgré tout, la virgule est importante. Parce que c'est l'espace de temps que vous allez laisser à Dieu pour faire quelque chose dans votre malgré tout, dans votre le peu importe, dans tout ce que vous avez traversé. Si le peu importe signifie tout ce qu'il a fallu endurer, supporter, traverser, n'oubliez pas la virgule. Elle a tout son intérêt. Elle sous-tend, elle sous-entend tout ce qu'est votre Sauveur. Un des chants qu'on vient de chanter dit « Pour qui tu es, Seigneur, je te loue. » On avance dans nos vies chrétiennes et on sait que Dieu est, et on lui donne tous les noms, Rophé, El Shaddai, tous, on les connaît tous. Et on a quand même vite mis de côté, même si on le sait, qu'il est le Sauveur, qu'il est capable de vous sauver. Cette nuit-là, quand Patrick a fait son AVC, Dieu mettait en route encore un processus de sauvetage. Dieu sauvait. Savez-vous qu'il faut 5 heures pour intervenir sur un AVC avant qu'il n'y ait des lésions, des séquelles irréversibles? Dans la nuit de lundi à mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le diagnostic est tombé IRM, samedi matin, le traitement a eu lieu. 5 heures pour 5 jours. Dès la nuit du lundi au mardi, quand je rentrais, le processus de guérison était en marche. Je crois que Dieu est un sauveur. Peu importe, je te suivrai. Pour suivre quelqu'un, il faut bien être derrière lui. Et puis si Dieu est avec nous, une attitude. Je voudrais maintenant vous parler de vous, mesdames. Parce que toutes les épreuves, et je vous laisse le découvrir, c'est pas tant l'épreuve qui va vous aider à grandir. Ce qui va vous transformer, c'est la manière dont vous allez traverser l'épreuve. Pour tenir dans cette détermination de suivre le Seigneur malgré tout, on ne peut pas faire l'économie d'une étape importante, primordiale. Face à l'offense, et face à l'offenseur. Dans ce lieu de désert, de souffrance, c'est un lieu de macération, un terrain d'enlisement. Il ne faut pas stationner dans le désert. Il faut en sortir. L'épreuve que tu traverses ne t'appartient pas. Et c'est pour ça que je vais oser parler maintenant de notre attitude. Notre attitude. C'est quelque chose que j'ai traité en janvier pour les les amis qui étaient là à Toulouse. Je vois quelques visages. Permettez-moi de le répéter, mais ça me semble essentiel au travers de tout ce que j'ai traversé cette année. On a trop souvent l'habitude de dire « ma douleur, ma difficulté, mon épreuve, ma tempête ». Mes amis, vous vous trompez. C'est la tempête que vous traversez, certes, mais ce n'est qu'un passage. Par contre, ce qui est à vous, possessif, et qui vous appartient, c'est votre attitude. Qu'est-ce qui sortira de vous au moment de l'épreuve? De quelle manière réagirez-vous? Vous savez, dans le danger, dans la fosse aux lions, exposé au danger, vous voyez de qui je veux parler là, les trois amis. Et puis au fond de sa citerne, comment il a réagi Joseph? Au creux de la vague, quand il y a la tempête et que les disciples paniquent, que fait Jésus? Il dort dans ma barque. Ça, c'est comme, je fais une parenthèse, une petite régression pour vous dire, c'est extraordinaire que la tempête que vous traversez, que j'ai traversée, elle impressionne même pas le Seigneur. Moi, elle m'a impressionnée. Moi, elle m'a fait peur. Mais le Seigneur sait. Et il sait qu'il va la calmer. Ce qui est important, c'est pas la tempête que tu traverses. C'est comment tu vas te comporter dans cette tempête. Je vais aller plus loin. Quand on t'offense, quand on te maltraite, quand on te blesse, quand un matin de bonne heure à 6h30 du matin, alors que tu pars pour travailler, au coin de ta rue, tu es face à de la violence. Tu es face à quelqu'un qui est en furie et qui vient pour te taper dessus et que tu perds tous tes moyens, tu ne sais plus ce qui se passe. Quand tu es face à un agresseur, quand tu reçois des coups, et même si on te calomnie, si on disait du mal de toi, ton attitude dans de tels moments va permettre ou pas au Seigneur de calmer la tempête, de te retirer de la fosse, de te faire passer, de faire passer devant le trou de la citerne de Joseph la caravane de la délivrance. C'est ton attitude qui sera observée. Ce que tu es vraiment au fond de toi sera visible dans de tels moments de pression, de difficulté, de compression. Oui, mais voilà, c'est pas fini. Il va falloir faire un petit pas de plus. Dans cette détermination, dans cette déclaration de « je te suivrai ». Et je voudrais vous amener sur la conclusion, parce que sur un chemin de guérison, il y a toujours un moment que l'on ne peut pas contourner. On ne pourra pas l'éviter. Dans cette souffrance par laquelle peut-être tu passes, ce que tu as traversé dans ta vie, il y a ce chemin qui passe automatiquement. Oui, ta guérison est en chemin, mais il va te falloir passer par le pardon. Le pardon, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas capituler. Le pardon, c'est simplement obéir au commandement de Jésus. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous reconnaîtront que je suis le Sauveur. Aimez-vous les uns les autres? Moi, j'ai lu aussi quelque part qu'il faut, il faut aimer nos ennemis. Aimez ceux qui vous font du mal. Aimez ceux qui vous persécutent. Quand les persécutions viennent de dehors, on se dit, oh, c'est normal, ils ne connaissent pas le Seigneur. Mes amis, il y a des persécutions qui viennent à l'intérieur de la maison de Dieu. Il y a des persécutions qui viennent de ceux auxquels vous ne penseriez même pas qu'ils pourraient vous atteindre. Il y a au milieu de nous, dans la famille, comme dans toutes les familles, des querelles de fratrie, des difficultés. Et quand la difficulté atteint là au milieu de nous, nous sommes blessés. Des paroles sont prononcées, des actions ont lieu, nous sommes blessés profondément. Vous ne pourrez pas aller plus loin sur ce chemin de guérison si vous n'apprenez pas vous-même à pardonner celui qui vous a agressé. Osez pardonner à celui qui a porté le coup, à celui ou celle qui a si mal parlé de vous. Osez vous réconcilier avec celui qui a détruit, qui a laminé, qui a écorché votre existence. Ça remonte peut-être il y a très longtemps. Les hommes vous ont fait du mal. Un homme vous a fait du mal. Je vous ai cité ça tout à l'heure, 6h30 du matin. C'est mon expérience. Quand une tempête cache une autre tempête et puis encore une autre tempête. Patrick était en convalescence et alors qu'il se remettait petit à petit, c'est ce qui m'est arrivé. Un énergumène en furie, en folie. Apprenons à pardonner. Même celui que vous ne connaissez pas, vous ne rencontrerez peut-être plus jamais votre agresseur. Vous ne pouvez pas accéder à votre guérison si vous continuez à entretenir dans votre existence de la rancune, de l'amertume, de la colère. Ça ne suffisait pas d'un AVC, une agression, et puis encore ça, et puis encore ça. J'aurais pu rester et tourner en rond dans mon désert et adopter la mentalité du désert. J'ai décidé que peu importe, j'ai décidé que malgré tout, moi, parce que Dieu, avec tout ce qu'il est pour moi, je le suivrai. Mes amis, si vous voulez vraiment guérir, il y a un lieu incontournable. Un lieu qui nous ramène à la croix de Jésus. Parce que vous avez été pardonné. Osez pardonner. Ça remonte peut-être très loin en arrière. C'est peut-être un père qui vous a fait mal. C'est peut-être un adulte qui a blessé votre enfance. Il y a peut-être encore en vous cette résurgence de souffrance. Il y a peut-être des petites filles au milieu de nous qui sont en train de lutter, de dire « je peux pas oublier ». Oublie ton passé, il n'a pas d'avenir. Si tu veux aller devant, il va falloir que tu fasses un pas. Et pour faire ce pas, rentre dans le pardon. Laisse agir Jésus dans ton cœur. Fais ce choix, parce que de ton attitude va dépendre toute l'action de Dieu dans ta vie. C'est ton choix, c'est pas le choix de l'autre. C'est pas l'autre qui doit changer. Mon ami, c'est toi qui dois être transformé. Et ta transformation dans la guérison, elle passe par le pardon. Et je voudrais simplement terminer en vous laissant cette parole. Et je veux le voir, un chemin dans le désert de ta vie. C'est ce que j'ai vu tout au long de l'année. Je suis là parce que Dieu a tracé ce chemin dans mon désert. Je suis là parce que Dieu m'a donné de m'abreuver dans ce désert de solitude. C'est ce qu'il veut faire pour vous. Sachez qu'il vous aime. Sachez que vous avez des amis qui prient pour vous et qui seront toujours là à vos côtés. Mes amis, ne faites pas l'économie du pardon. Avançons ensemble dans le pardon. Je voudrais qu'on se recueille.